Bonsoir, bienvenue dans le grain à moudre d'été. Ce soir, la Grèce est-elle sortie de la crise ? Ça y est, la Grèce n'est plus sous tutelle, c'est officiel depuis hier. Elle ne dépend plus de l'aide de la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international. Une aide de 260 milliards d'euros versée lors de trois plans successifs depuis 2010, le dernier ayant pris fin ce lundi. Le pays peut donc à nouveau chercher à se financer seul sur les marchés. Qu'on se le dise donc, la Grèce va mieux. Et pourtant, à entendre les Grecs, à les écouter raconter leur quotidien, on se dit que cet optimisme claironné par certains dirigeants européens peut être nuancé. À la lecture de quelques indicateurs aussi, une dette publique gigantesque, 180% du PIB, une population en baisse, 400 000 habitants perdus en 7 ans entre 2011 et aujourd'hui, et un taux de pauvreté élevé. Bref, on peut se demander si la Grèce s'est bel et bien remise. La Grèce est-elle sortie de la crise ? Pour répondre à cette question, trois invités. Nathalie Janson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur de finance et d'économie à Neoma, à Rouen et à Sciences Po, à Paris. Statis Kouvelakis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct par téléphone d'Athènes. Vous êtes professeur de philosophie politique au King's College à Londres. Et vous avez fait partie du comité central de Syriza, le parti actuellement au pouvoir en Grèce, entre 2012 et 2015. Au téléphone également, Jean-Arnaud Dérins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Pour commencer cette émission, eh bien, je voudrais reposer la question. La Grèce est-elle sortie de la crise ? De nombreuses réponses ont été apportées ces derniers jours, notamment celle de Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé de l'économie. Il était l'invité de France Inter hier matin.
C'est un jour majeur, voire historique pour la Grèce. La Grèce depuis près de 10 ans, et non pas sous la tutelle, mais sous le coup de programmes qui sont des programmes d'assistance, d'aide. C'est quand même 273 milliards d'euros d'assistance financière qui ont été données à la Grèce, en contrepartie de réformes qui ont été des réformes difficiles, douloureuses, et je serai le dernier à l'ignorer. Mais enfin, il faut quand même le dire, pour la zone euro, pour la Grèce, c'est une journée importante, et il faut la saluer comme telle, parce que c'est vrai que la Grèce, maintenant, va pouvoir marcher seule sur ses deux pieds, et qu'elle sera un pays de la zone euro comme les autres, alors que les 10 dernières années, elle était vraiment sous programme et sous contrôle. Et donc, ça, c'est le fruit des efforts du peuple grec, c'est le fruit aussi d'une solidarité européenne qui n'a pas été vraiment sans histoire.
La Grèce peut marcher seule sur ses deux pieds, sur ses deux jambes, dit Pierre Moscovici. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Statis Kouvelakis ?
Écoutez, les propos de Pierre Moscovici sont tout à fait grotesques et mensongers à plusieurs égards. Le premier, c'est quand il mentionne les milliards d'aides dont la Grèce a bénéficié. Ce n'est pas la Grèce qui a bénéficié de cela, ce sont les banques qui en ont bénéficié, car 95% de ces 270 milliards ont été alloués au remboursement de la dette. C'était d'ailleurs, ça faisait partie des conditions qui étaient prescrites. La priorité absolue devait être donnée au remboursement de la dette. Donc ce sont les banques allemandes, françaises, européennes, mais grecques aussi, qui étaient exposées à la dette grecque, qui ont été bénéficiaires de ce plan d'aide, absolument pas la population grecque, qui au contraire s'est terriblement appauvrie. La deuxième chose, c'est que ce programme est un échec complet. Le ratio de la dette quant au PIB est plus élevé après 8 ans de purge qu'au début de cette purge. Et la récession de la Grèce est la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire moderne d'un pays occidental. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI lui-même qui fait la comparaison dans son dernier rapport sur la dette, dans lequel il compare la courbe de la récession grecque à la courbe des années 30 des États-Unis et de l'Allemagne, et celle de la crise asiatique du début des années 90.
Statis Kouvelakis, vous parlez de récession, mais la croissance...
Le troisième mensonge, juste pour terminer sur ce point, c'est que la Grèce continue à être sous tutelle. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Klaus Regling, qui a justement supervisé pour la Troïka la mise en place de ce programme pendant les 8 dernières années, qui dit le régime de la Grèce sera celui de la surveillance renforcée.
On va y venir.
Aujourd'hui du Monde rappelle ces citations. La Grèce a pris des engagements pour continuer le même type de politique économique jusqu'en 2060, moment où prétendument la dette actuelle sera remboursée, ce qui n'arrivera jamais et tout le monde le sait. Donc il y a un triple mensonge dans les propos de Monsieur Moscovici, mais celui qu'on entend de la part d'autres dirigeants, à commencer par Alexis Tsipras, le premier ministre actuel de la Grèce.
Avant de donner la parole à Nathalie Janson, une précision, vous avez parlé de récession de la Grèce, pourtant la croissance est repartie à la hausse en Grèce depuis 3 ans, me semble-t-il. Elle est prévue, on prévoit une croissance de 2,3% cette année dans le pays.
Bon, écoutez, premièrement, la croissance, ça reste à confirmer. Jusqu'à l'année dernière, on a à peine une stabilisation de l'économie. Mmh. Et cette croissance survient après une diminution du PIB de l'ordre de 28% comparé à celui qu'il était en 2009, avant la crise. 28% de PIB en moins. Je répète encore une fois, selon les estimations et le graphique du FMI, c'est la pire récession enregistrée dans un pays occidental dans l'histoire moderne.
Nathalie Janson.
Oui, en effet, la Grèce est effectivement sortie du plan d'aide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère qu'elle a plus besoin d'aide financière de la part de la Troïka, mais elle est dans une situation économique effectivement moins bonne. Et par rapport à d'autres pays qui étaient dans la même situation, si on prend l'exemple de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, ils sont aujourd'hui dans une situation qui est semblable à celle de la pré-crise. Et ce n'est pas du tout le cas de la Grèce, qui effectivement a accusé une baisse de son PIB de 25%, comparé à 2007.
Est-ce qu'elle marche sur ses deux jambes, sur ses deux pieds aujourd'hui, comme le disait Pierre Moscovici hier matin?
En tout cas, elle marchera pas sans accompagnement comme jusqu'à maintenant. Mais par contre, effectivement, comme il a été mentionné, elle est toujours sous surveillance puisque effectivement, elle a dans un des derniers, ce qui a finalisé l'accord, elle aura accès en fait à 15 milliards d'euros. Au cas où son accès au marché financier se complique pour des raisons qui ne lui seraient pas propres, c'est-à-dire des raisons dues au climat du marché financier. Et elle aura accès à cette manne seulement si, effectivement, elle se prête aux audits tous les trimestres, en fait, de ses comptes publics.
On va reparler des conditions et de l'avenir de la Grèce dans cette émission un peu plus tard. Je me tourne maintenant vers Jean-Arnaud Derrins. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que, comme Pierre Moscovici, que la Grèce peut marcher sur ses deux pieds et se refinancer sur les marchés? Est-ce que la Grèce va mieux?
Non, je crois vraiment pas. C'est effectivement assez choquant de le dire. Je crois surtout le problème de fond, c'est la question de la dette. Tout le monde sait très bien, à commencer par M. Moscovici, que cette dette est totalement intenable et qu'elle ne sera jamais payée. Donc dire que la Grèce est sortie d'affaire est effectivement un non-sens, parce que la question de la dette est la question centrale, que cette dette n'a pas cessé de s'alourdir, vous le rappeliez, elle représente aujourd'hui 180% du PIB du pays. Tout le monde sait très bien qu'elle ne pourra pas être renégociée, et justement l'Union européenne a toujours refusé toute perspective, tout projet réel de renégociation de cette dette, ce qui est le point central. Malgré d'ailleurs, pour le coup, beaucoup d'avertissements, de mise en garde, y compris du FMI, mais l'Union européenne, ou en tout cas certains pays de l'Union, ont été totalement intransigeants en la matière. Donc dans ces conditions-là, la Grèce pourra certes, bien sûr, aller se présenter sur les marchés financiers internationaux. Ça peut-être, c'est peut-être pas effectivement une mauvaise chose, mais en tout cas, la question centrale, qui existait d'ailleurs déjà, je dirais, avant que la crise de 2010 n'éclate, qui s'est aggravée tout au long de la décennie que nous venons de connaître, est toujours plus forte, plus prégnante que jamais. Et cette question-là, bien évidemment, obère totalement toutes les perspectives de normalisation, je ne parlerai même pas de développement, mais de retour à la normale de la vie du pays.
Nathalie Janson.
Oui, sur la question de la dette, il faut quand même préciser quelque chose. Déjà, en soi, le niveau dépend en fait de la capacité à y faire face plus que le niveau en soi. Puisque si on prend le cas du Japon, il est bien plus endetté que la Grèce. Le problème de la Grèce, c'est qu'en fait, on questionne en pourcentage du PIB. Quand on parle du Japon, on est largement au-dessus des 200%. Le problème du Japon, c'est qu'en fait, il finance sa propre dette, puisqu'en fait, c'est majoritairement des nationaux qui détiennent la dette parce qu'ils ont de l'épargne.
Juste pour avoir une idée, la France est 100% hein,
oui,
PIB,
oui, c'est
à
ça.
Peu près.
Oui. Donc en fait, ça dépend si elle est finançable, cette dette. Donc effectivement, dans le cas de la Grèce, on sait qu'il y aura certainement des problèmes pour y faire face. Mais là où effectivement l'Europe, en tout cas effectivement les pays du nord de l'Europe, ce qu'ils ne voulaient pas faire, c'est effectivement effacer cette dette parce qu'ils tenaient à ce que ce soit qu'il n'y ait pas de précédent. Mmh. Et pour la dans le cadre de la zone euro, ils ne voulaient pas créer de précédent. C'était plus en fait un statement qu'autre chose pour dire voilà, il faut qu'on honore en fait ces obligations. Maintenant, effectivement, beaucoup sont tout à fait conscients que le remboursement sera sans doute problématique. Et en fait, ce qui est aussi envisagé, c'est qu'au fur et à mesure des années, si effectivement la mise en forme la mise en place des réformes produit ses fruits et que on n'a pas trop de chaos, l'idée ce serait éventuellement de continuer à vouloir allonger les maturités, enfin ce qui a été fait là dernièrement. Voilà.
Allonger les maturités, ça veut dire allonger la
durée de remboursement. Oui, continuer à reporter en fait le remboursement de la dette, mais sous réserve que tout se passe bien.
On a parlé de la dette, c'est l'un des signes de la situation, mauvaise situation économique de la Grèce. Ça reste un chiffre, c'est assez abstrait, qui a aussi des conséquences concrètes. Les premiers à les vivre, ces conséquences, eh bien ce sont les Grecs. Voici quelques témoignages de certains d'entre eux recueillis ces dernières années, en 2013 et en 2017, par France 3 et par France 24. Ces Grecs racontent les changements parfois violents qu'ils ont vécu à cause des réformes mises en place ces dernières années. Les changements et donc les conséquences dans leur vie.
Avant, nous étions quatre à travailler et on arrivait à s'en sortir. Maintenant, on ne peut plus payer les factures, les impôts. Les banques nous appellent tout le temps pour rembourser nos prêts. Et puis, il y a le froid. Donc, notre priorité, c'est de survivre.
Moi, avant la crise, je m'en sortais avec 1100 euros par mois, en comptant les heures supplémentaires. Maintenant, je ne touche plus que la moitié. On se sent cassé. Comment peut-on rester motivé? On est angoissé et en colère.
Aujourd'hui, dans ce pays, c'est la jungle du travail. Il y a des gens à temps plein qui ne sont même pas payés. Avant de perdre mon emploi, cela faisait 4 mois que je n'avais pas touché mon salaire.
J'en ai deux, un garçon et une fille. L'un est en Angleterre, l'autre aux Pays-Bas. Tous les deux ont émigré. Eux-mêmes, ils étaient sans travail, obligés de quitter le pays.
Du chômage, 20% de chômage encore aujourd'hui. Hein, le taux était bien supérieur il y a quelques années, 28%, mais encore donc 20% de chômage. Conséquence, entre autres, des départs, des salaires en baisse, des salaires qui parfois ne sont pas payés, on l'a entendu. Est-ce que, Stathis Kouvelakis, tous les Grecs sont concernés par ces conséquences ou ces réformes qui ont été mises en place ont creusé les inégalités qui existaient déjà entre les Grecs?
Oh, les inégalités se sont considérablement creusées. Il faut dire ici une chose, que la Grèce était déjà un pays très inégalitaire avant la crise, mais elle est devenue évidemment bien davantage après la purge qui lui a été imposée. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers de la population, autour des 34%, selon des chiffres d'Eurostat, qui sont exposés au risque de pauvreté. C'est le troisième chiffre, c'est le troisième rang dans l'Union européenne. Il n'y a que la Roumanie et la Bulgarie qui font pire. Quant aux chiffres que vous avez cités des départs, moi j'ai des chiffres qui sont encore supérieurs. C'est-à-dire que selon des estimations semi-officielles, c'est une étude de la Banque de Grèce et aussi une étude de l'Université de Thessalonique, le nombre de Grecs qui ont quitté le pays depuis le début de la crise est estimé à 400 000 et le nombre de travailleurs étrangers qui vivaient dans le pays et qui étaient installés ici est de l'ordre de 200 à 250 000. Donc il y a plus de 600 000 personnes qui ont quitté le pays depuis le début de la crise et les estimations quant aux chiffres de la population montrent qu'il est effectivement passé de 11 millions à un peu plus de 10 300 000 aujourd'hui. Donc ça explique aussi la diminution du chômage. Vous l'avez mentionné, personnellement j'enseigne à l'Université de Londres et là je vois Londres est l'une des principales destinations précisément de ces Grecs, jeunes pourtant leur grande majorité, très diplômés, c'est la génération la plus diplômée du pays qui part massivement à l'étranger et je peux témoigner du fait que les amis enseignants qui travaillent ici dans le secondaire et parfois même dans le primaire disent que dans les cours de récréation l'une des conversations habituelles totalement ordinaires entre élèves est dans quel pays il compte émigrer.
Jean-Arnaud Derains, vous qui connaissez bien la Grèce aussi, dans quel état se trouve aujourd'hui la société grecque?
Je crois que cette société a été, comme le disait Stathis Kouvelakis, a été totalement, comment dire, et les témoignages que vous diffusiez, cette société a été totalement détruite, déstructurée par ces 8 années de descente en permanence aux enfers, et une descente qui probablement n'est pas encore terminée. Si l'on regarde les dernières mesures décidées en juin, le niveau des retraites va encore baisser, de nouvelles coupes sont prévues. Donc pour les citoyens ordinaires, pour la grande majorité des citoyens grecs, aucune amélioration n'est en vue à court terme. Donc cette société, elle a tenu, malgré tout, elle a tenu parce qu'existait, je dirais, des solidarités traditionnelles, familiales notamment, qui ont permis d'éviter des catastrophes humanitaires, mais on n'est pas passé si loin que cela. Et il n'est pas du tout certain que les capacités de résilience de cette société puissent encore fonctionner longtemps. Aujourd'hui, les gens qui partent, il faut le rappeler, c'est très important, ce ne sont pas seulement des jeunes travailleurs diplômés, qualifiés, qui vont chercher un meilleur salaire à l'étranger. Il y a ça, bien sûr, depuis, j'ai envie de dire un petit peu depuis toujours, et plus particulièrement, bien sûr, depuis 2010. Mais ce que l'on observe aujourd'hui en Grèce, et d'ailleurs aussi dans les autres pays de la région, c'est que tout le monde part et que l'on part en famille. Parce que non seulement les gens constatent qu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail, mais ils partent tous de l'idée que les choses ne vont pas s'améliorer, et beaucoup de gens partent aujourd'hui pas du tout pour gagner un petit peu d'argent, mais pour que leurs enfants ne connaissent pas la situation et la précarité permanente qu'eux-mêmes ont connue. Ce phénomène qui affecte fondamentalement toute l'Europe du Sud-Est est aujourd'hui un des principaux défis posés pour le coup à l'ensemble du continent, parce qu'on ne peut pas imaginer, on peut parler de la stabilité de la zone euro, mais enfin, comment est-ce, de quelle stabilité parle-t-on si certains pays de l'Union européenne ou appelés à la rejoindre deviennent des déserts, se vident? C'est le cas aujourd'hui de la Grèce, de la Bulgarie, où la situation est pour le coup est encore bien pire, de la Roumanie et également des autres pays candidats des Balkans. Mais ça, c'est pas seulement, disons, l'émigration classique où on va ailleurs pour essayer de gagner plus d'argent durant une petite période avec l'idée de revenir au pays. Aujourd'hui, l'exode a un caractère définitif. On se dit que les choses ne pourront plus s'améliorer. C'est l'espoir qui aujourd'hui est en train de disparaître, notamment en Grèce.
C'est ce que vous constatez aussi, Stathis Kouvelakis, quand vous parlez aux Grecs que vous avez rencontrés cet été ou à ceux que vous rencontrez à Londres.
Ah oui, oui, tout à fait. Quant à la perte de l'espoir, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Arnaud de Reims. Le Monde diplomatique a récemment consacré un dossier d'ailleurs au fait que les Balkans se vidaient justement de leur population. Alors la Grèce a été touchée plus tard par ce phénomène, car la situation n'était pas aussi détériorée avant 2010, mais elle a rejoint effectivement cette tendance générale. Ce que je peux voir à Londres, c'est que c'est souvent les enfants qui partent et les parents qui viennent après, souvent d'ailleurs pour aider à la garde des enfants, parce que le système des crèches et de la garde d'enfants est extrêmement onéreux, car très peu public en Grande-Bretagne. Mais quant à la perte de l'espoir, il faut souligner qu'elle a des racines avant tout politiques. Hein, c'est-à-dire ce que la capitulation d'Alexis Tsipras en 2015 a produit, c'est la perte radicale de l'espoir. Si vous voulez, les Grecs ont fait une expérience non seulement d'un traumatisme social et économique extrêmement violent, d'appauvrissement de la société, mais aussi d'un déni de démocratie. C'est ça qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé, et quel que soit le gouvernement élu, et ce depuis 2009, ils se retrouvent toujours avec un mémorandum, avec un nouveau mémorandum appliqué, toujours avec la même politique économique, toujours avec le même avec les mêmes conséquences.
Cela dit, ça n'a pas empêché les Grecs de réélire Alexis Tsipras en septembre 2015.
On a l'impression qu'ils ont... Ils ont tout essayé et rien n'a été possible, ce qui évidemment se traduit par une énorme désaffection vis-à-vis de la politique, le repli sur soi et évidemment le fait que les gens sont complètement pris par des problèmes de survie et toute leur énergie est concentrée là-dessus. Donc c'est une société, c'est un peuple à la fois paupérisé mais aussi terriblement humilié et démoralisé.
Sans remettre en cause, évidemment, votre analyse, Stathis Kouvelakis, juste une précision, Alexis Tsipras, élu pour la première fois en janvier 2015, effectivement sur un programme d'espoir, déçu avec l'adoption d'un mémorandum, je vais y arriver, à l'été 2015, ce qui n'a pas empêché quand même Alexis Tsipras d'être réélu en septembre, quelques mois plus tard. Nathalie Janson.
Oui, en effet, la fuite en fait des jeunes, visiblement, selon les dernières études qui sont parues, soulignaient que c'était un phénomène assez récent en Grèce, c'est-à-dire comparé à d'autres pays européens, c'était pas une tradition de partir pour ne pas revenir. Et effectivement, par rapport aux réformes à mener et à soutenir dans le temps, c'est problématique, puisque d'une part, ça veut dire que cette partie de la population diplômée qui peut avoir donc généré de l'activité économique ne sera pas là. Et également, ça pose le soutien de la continuité des réformes dans le temps, puisque ce sont les plus affaiblis, les plus faibles qui vont rester. et qui n'ont pas intérêt à ce que le système change si on estime qu'effectivement le système ancien en fait doit changer.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Genton. La Grèce est-elle sortie de la crise? C'est la question que nous posons ce soir dans le grain à moudre d'été avec nos trois invités, Nathalie Janson, économiste, professeur à Neoma à Rouen et à Sciences Po à Paris, Statis Kouvelakis, professeur de philosophie politique au King's College à Londres, et Jean-Arnaud Desreins, historien, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Vous les avez évoqués hein, au cours des dernières minutes, ces réformes menées depuis 2010 maintenant en Grèce, 450 réformes décidées sous la pression d'instances internationales, je l'ai dit, cette Troïka, FMI, BCE, Commission européenne, des réformes adoptées en échange de prêts, quelques dizaines de milliards d'euros. Nathalie Janson, est-ce que ces réformes étaient utiles ou est-ce qu'elles se sont révélées, compte tenu de la situation actuelle, inutiles et dangereuses même?
Alors là, on est évidemment confronté avec des choix de société, c'est-à-dire que si on estime qu'effectivement, pour que l'activité économique puisse se développer, il faut que l'économie s'ouvre, puisque un des maux en fait de la Grèce, c'était effectivement d'avoir une économie encore très réglementée et fermée par rapport à ses voisins qui font partie de la zone de l'euro. Et c'est bien ça, c'était bien le problème en fait essentiel de la Grèce, un système très réglementé, une administration publique assez importante,
et assez lourde.
Assez lourde. Donc,
800 000 fonctionnaires et ça représentait 40% du PIB.
Exactement,
de
avec effectivement des salaires. Enfin, on retrouve les mêmes mots en Italie, qui sont assez similaires avec. Alors, pas parce qu'il y a deux Italies, mais on a une similarité de ces aspects. Et bien évidemment, cette transition. Donc, il faut transformer l'économie. Il faut effectivement aussi que l'administration devienne efficace, devienne fiable, qu'il y ait moins de corruption, qu'il y ait moins d'évasion fiscale. Et bien évidemment, évidemment, ce n'est pas une baguette magique qui va transformer la Grèce et les réformes vont avoir besoin de beaucoup de temps.
Statis Kouvelakis, qui voulait réagir au propos que vous avez tenu un peu avant, entre autres.
Oui, mais écoutez, là vous avez posé la question sur le terrain qui est adéquat. Ce qui était appliqué à la Grèce, si vous voulez, c'est une thérapie néolibérale de choc comparée la plus drastique et sans doute plus drastique encore que celle que Madame Thatcher infligée à la Grande-Bretagne dans les années 80. Je voulais revenir un peu sur les propos de Madame Janson et sur quelques-uns des constats qui ont été faits. Premièrement, la Grèce n'était pas du tout une économie fermée avant 2010. Au contraire, elle était une économie extrêmement ouverte avec notamment des déficits importants de ses comptes courants, un déficit commercial très important, une faiblesse de ses exportations et de sa base productive et une énorme ouverture aux importations et aux prêts d'ailleurs à l'étranger, non seulement du secteur de l'État grec mais aussi du secteur privé qui s'était endetté en fait à des rythmes encore plus rapides que celui de l'État. Deuxième chose, il ne faut pas confondre l'inefficacité de l'administration publique et de l'appareil d'État, et là je suis entièrement d'accord pour dire que c'était le cas, et ça le reste d'autant plus qu'elle a été ravagée par les effets de l'austérité, mais du point de vue de sa taille et de la part qu'elle représentait dans l'emploi public et même dans le budget de l'État, elle était tout à fait dans la moyenne de l'Union européenne et même un peu au-dessus. Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ça en fait la véritable cause du problème. Quant à la question fiscale, évidemment l'évasion fiscale est très importante en Grèce, mais l'évasion fiscale concerne essentiellement les couches aisées de la population, les entreprises, le capital, les armateurs entre autres, mais pas seulement, et rien n'a changé de ce point de vue. Il y a eu une augmentation record de la pression fiscale entre 2010 et aujourd'hui, mais ceux qui payent, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les classes populaires et la classe moyenne. Il y a à l'heure actuelle, en termes d'arriérés d'impôts de la part des ménages grecs, plus de presque 100% du PIB qui était l'équivalent des arriérés d'impôts. Et la seule mesure un peu populaire d'ailleurs que le gouvernement Syriza a pu prendre pendant les 6 premiers mois de son mandat, ça a été de réglementer justement, de donner quelques facilités pour le paiement de ces arriérés pour les ménages modestes et moyens. Bon, mais le problème n'a pas du tout été résolu, il n'a fait que s'aggraver. Donc rien n'a été résolu, au contraire, ce qui s'est passé, c'est que toutes les protections sociales, les réglementations dont parle Madame Janson, ça doit être le fait que tous les droits sociaux qui existaient ont été radicalement supprimés. Par exemple, et je m'en
rapidement, s'il vous plaît,
et je m'arrêterai là. tout le système des conventions collectives a été balayé dès le premier mémorandum. Les réformes El Khomri et les ordonnances Macron, c'est light comparé à ce qui s'est passé en Grèce dès 2010. C'est la véritable jungle dans le secteur privé, à part le salaire minimum qui, je le rappelle, a administrativement été ramené de 720 à 480 euros par mois.
Nathalie Janson et après Jean-Arnaud Desreins.
Oui, donc je tenais à m'excuser pour peut-être le propos. Encore, je mentionnais l'économie fermée, c'est l'économie en fait réglementée, c'est-à-dire l'économie où il y a encore beaucoup de professions qui sont protégées. C'est une économie protégée. Bien évidemment, l'économie grecque est ouverte. Quant à l'évasion fiscale, oui, le problème, bien évidemment, étant donné que la base fiscale grecque est assez étroite, c'est-à-dire qu'en fait, la Grèce fait partie des pays européens qui avaient la base fiscale la plus petite. Bien évidemment, les personnes concernées par l'impôt sont les plus riches. Et effectivement, du coup, les plus riches, eh bien, comme ils ont tous les moyens à leur disposition pour pouvoir faire de l'évasion fiscale, font de l'évasion fiscale. Donc, en fait, ça absolument rien de surprenant d'avoir une forte évasion fiscale quand on a une base fiscale qui est très réduite.
L'un des autres problèmes de la Grèce était la perception des impôts qui a augmenté. Hein. Le taux a augmenté, il était 88% avant la crise, 91% aujourd'hui après les réformes menées, notamment par des Français d'ailleurs. Pour vous donner une idée, en Europe, hein, le taux moyen de perception des impôts tourne autour de 95%. Jean-Arnaud Desreins, on parle du modèle économique et social grec. Hein. Là, c'est aussi ce qui est en jeu et en cause dans cette crise. Le changement a été violent, particulièrement violent, comme le soulignait Stathis Kouvelakis. Est-ce qu'il était nécessaire ?
Écoutez, là, pour le coup, c'est une question, j'ai envie de dire, très...
politique. Oui, c'est sûr.
À titre personnel, j'aurais envie de vous répondre par la négative. Après, on peut en discuter et opposer des arguments. La question du choix de société, c'est un choix qui, bien évidemment, est toujours ouvert. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus journalistique, on peut se poser tout simplement des questions assez simples sur les objectifs fixés, les résultats obtenus. Et là, sans rentrer dans un débat idéologique, on a quand même l'impression que le compte n'y est pas tout à fait. Je crois que c'est ça le point le plus important. Le débat sur économie ouverte, économie fermée, économie contrôlée est un débat très intéressant. Mais qu'est-ce que l'on a ouvert quand le gouvernement de Tsipras a été obligé de privatiser massivement l'essentiel des richesses publiques du pays. Je crois qu'aujourd'hui, ces richesses-là, elles sont désormais fermées pour la Grèce, pour la société, pour les citoyens grecs. Je ne suis pas sûr que cela soit une avancée qui permettra de redynamiser l'économie et dont les citoyens pourront donc tirer à un moment des bénéfices, espérer une reprise, une amélioration de leur situation du fait des privatisations. Pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Je sais bien qu'un modèle libéral peut, dans certains contextes, apporter des dynamiques de croissance. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, au bout du compte, l'ensemble des citoyens peuvent profiter dans un contexte économique global de croissance. Je ne suis pas sûr du tout qu'on y soit, je ne suis pas sûr du tout. On fait souvent la comparaison avec les années Thatcher en Grande-Bretagne, mais après les mesures très violentes qu'a infligées Margaret Thatcher, il y a eu d'autres pages de l'histoire qui se sont écrites. Je ne pense pas du tout que le contexte international, que le contexte global dans lequel se trouve la Grèce de 2018 soit comparable à celui, mettons, de la Grande-Bretagne de la fin des années, de la fin du XXe siècle. On a des contextes totalement différents. Je suis un petit peu surpris, pour le coup, par le côté souvent très idéologique des arguments avancés pour justifier cette logique libérale où on postule que ce modèle-là doit forcément fonctionner, alors que d'un point de vue strictement objectif, si l'on regarde les résultats atteints, il est évident qu'on est encore très loin du compte.
Si j'entends bien, Nathalie Janson, cette doctrine ou cette cure néolibérale, elle est liée à la zone euro, si je vous entends bien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le projet de l'euro, en tout cas tel qu'il est, il a été imaginé par les pays fondateurs, même si je pense qu'il n'était pas tout à fait clair entre eux, mais en tout cas celui qui menait, qui était leader du projet, qui était l'Allemagne, effectivement, pour elle, je pense qu'il était clair que le projet était en accord avec ce fonctionnement économique.
Continuons à parler de ce choc vécu par les Grecs, de cette politique qualifiée souvent d'austérité, qui a été aussi vécue comme une punition par la Grèce. C'est le mot utilisé notamment par Alexis Tsipras, le premier ministre grec. C'était en novembre dernier.
Moi, personnellement, j'ai été élu pour la première fois en janvier 2015, en me basant sur la volonté du peuple grec de revendiquer avec nos partenaires une autre direction pour la Grèce, une autre direction pour l'Europe. Mais malheureusement, le premier semestre et les négociations du premier semestre 2015 ont été très dures. Tout le monde n'avait pas les mêmes idées. Certains pensaient que la Grèce devait être punie. Mais nous avons pu éviter le pire. Nous avons pu garder notre pays dans le noyau dur de la zone euro. Nous avons évité les divisions en Europe. Certains avaient préparé ce genre de scénario.
Alexis Tsipras, interrogé par nos confrères du Figaro, qui disait qu'il avait pu éviter le pire, éviter les divisions en Europe. Est-ce que cette intervention internationale, Stathis Kouvelakis, n'avait pas un enjeu un peu plus important que l'avenir de la Grèce? Il s'agissait de maintenir unie l'Union européenne et la crédibilité de l'Union. Est-ce que la Grèce, finalement, n'a pas été dépassée par cet enjeu?
Écoutez, la Grèce a surtout été dépassée par le fait qu'il s'agissait d'administrer une leçon à un gouvernement qui avait été élu avec des engagements de rompre avec les politiques d'austérité et du néolibéralisme. Et ça, c'est évidemment tout à fait inacceptable. Donc on a voulu faire capoter cette expérience dès le début. Et on a utilisé effectivement l'arme de l'euro à cette fin.
C'est-à-dire l'autre option, c'était la sortie de la zone euro.
Un certain nombre de conditions extrêmement strictes, mais je rappelle que 10 jours après les premières élections de janvier 2015 et la constitution du premier gouvernement Syriza, la Banque Centrale Européenne a annoncé l'arrêt de l'approvisionnement en liquidité via le canal habituel du système bancaire grec, et elle l'a mis à genoux. Il n'y avait plus le droit qu'aux liquidités d'urgence selon un mécanisme qui devait être renouvelé toutes les deux semaines et pour des montants strictement rationnés. Donc on a utilisé l'arme de la monnaie pour faire plier la Grèce, et je rappelle aussi que quand Alexis Tsipras a annoncé le référendum sur le plan d'austérité qui lui avait été proposé, cet approvisionnement en liquidité, même extrêmement réduit, a été complètement bloqué et le pays a été complètement assiégé. Un véritable blocus économique a été appliqué à la Grèce à ce moment-là. On a voulu écraser une fois pour toutes l'idée qu'une rupture avec l'austérité pouvait être possible en Europe, et on l'a réussi doublement, c'est-à-dire non seulement effectivement ce qui s'est passé, c'est que c'est un nouveau mémorandum a été accepté, mais il a été accepté par ceux-là même qui avaient été élus pour mettre fin à ce régime. Et de ce fait, il y a une impasse politique, sociale et économique de ce pays, et la démoralisation dont je parlais auparavant qui en a résulté.
Nathalie Janson n'est pas d'accord.
Oui, par rapport à l'accès à la Banque Centrale aux liquidités d'urgence, c'était tout simplement parce que les banques grecques étaient dans un état, elles sont toujours d'ailleurs dans un état affaibli, et qu'en fait les conditions d'accès n'étaient plus respectées par les banques grecques. Donc en termes, si vous voulez, de qualité en fait des actifs détenus. D'ailleurs, c'est toujours un problème aujourd'hui, qui est un sérieux problème, puisque ça bloque le financement de l'économie.
Stathis Kouvelakis?
Non, madame, ce n'est pas vrai. Quand le 4 ou le 5 février 2015, la Banque Centrale Européenne a annoncé la levée de l'exemption qu'elle accordait jusqu'à présent pour recevoir les titres des banques grecques, elle a explicitement mentionné que c'était parce que le nouveau gouvernement avait annoncé qu'il ne respecterait plus justement les conditions qui avaient été posées. La condition des banques grecques ne s'est pas détériorée en 10 jours après les nouvelles élections. Elle était tout aussi mauvaise avant qu'après. Ce qui, par contre, s'était passé, c'est que était élu un gouvernement qui, effectivement, dans ses intentions initiales, était celui de rompre avec justement ce que les gouvernements antérieurs avaient accepté. Et ça, pour la Banque Centrale Européenne, c'était inadmissible. Et donc, l'exemption qui avait été accordé effectivement jusqu'à ce moment-là aux titres venant des banques grecques pour continuer l'approvisionnement en liquidité a pris fin. Mais c'était une décision qui était complètement politique et non pas une décision économique. Personne n'a jamais d'ailleurs contesté ce point. Je tiens à rappeler
justement
M. Juncker, d'ailleurs au même moment, il ne saurait y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Et c'est à propos de la Grèce et de l'élection du nouveau gouvernement qu'il a, que ces propos avaient été énoncés.
Du grain à moudre d'été sur France Culture, il nous reste une dizaine de minutes, 10 minutes, 10 petites minutes même. Je vous propose de d'ouvrir maintenant un peu le débat et le sujet et de nous tourner vers l'avenir, puisque ça y est, hein, la tutelle, la Grèce n'est plus sous tutelle internationale, mais sous surveillance renforcée. Vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, Jean-Arnaud Desreins, quelle est la différence entre ces deux États, entre la tutelle et la surveillance?
Alors, je crois que ce sera beaucoup la pratique qui nous le dira. On verra bien, on verra bien. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Bien sûr, ce n'est pas...
Vous voulez dire qu'il n'y en a pas tellement, c'est ça?
Je n'en sais rien, très honnêtement. Très honnêtement, je n'en sais rien. Bien sûr, sur le papier, les choses se présentent de manière différente, mais je crois qu'il est vraiment, enfin, en tout cas, de mon point de vue, il me semble très délicat de faire des pronostics. La pratique nous dira la façon dont cette surveillance ou ce contrôle, on peut trouver des mots, hein, c'est au bout du compte une question un peu secondaire, s'exercera. Pour le coup, je pense aussi que le contexte dans lequel cette surveillance s'exercera dépendra beaucoup de la manière dont évoluera l'Union européenne elle-même. Nous allons arriver dans une année extrêmement importante, une année
d'élections européennes.
Ouais. D'élections européennes, où beaucoup de choses peuvent changer. On verra bien dans quel sens. Je crois qu'il est très difficile de faire des pronostics ou de s'avancer trop sur ce sujet.
Nathalie Janson.
Oui, jusqu'à maintenant, on utilisait le mot tutelle parce qu'en fait, chaque tranche débloquée était conditionnelle. Tout simplement. Donc en fait, la Grèce était tout le temps avec des auditeurs qui regardaient si effectivement ce qu'ils avaient promis de mettre en place était mis en place. Donc en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que j'appelais ça une tutelle. Aujourd'hui, effectivement, comme il n'y a plus d'aide financière, donc on peut plus utiliser le mot de tutelle et on utilise le mot de surveillance parce que, en référence à ce que à mes propos d'introduction, c'est-à-dire que la Grèce a aujourd'hui un matelas de sécurité de 15 milliards et qu'elle pourra utiliser au besoin pendant 22 mois, mais cet accès, il sera sous réserve.
Conditionné.
Exactement. Ces fameux audits visiblement trimestriels qui seront menés et pour constater que les réformes promises seront bien mises en application.
Sous tutelle, ne plus être sous tutelle, ça signifie aussi pour la Grèce de pouvoir se financer elle-même, seule sur les marchés, sans passer donc par cette tutelle internationale. Statis Kouvelakis.
Oui, je voudrais intervenir sur cette notion de tutelle. Bon, Nathalie Janson le rappelait. En fait, le mécanisme clé, qui est le mécanisme des audits, ces fameuses revues ou reviews, va continuer, et même avec une fréquence légèrement plus renforcée par rapport à avant. Mais il y a plus grave, c'est que dans l'accord qui a été fait concernant la dette grecque, avec ces facilités de paiement qui ont été accordées, l'allongement des maturités notamment, la Grèce s'est engagée à dégager des excédents budgétaires tout à fait exorbitants et uniques en Europe, de l'ordre de 3,5%
du PIB,
alors que l'économie a déjà souffert une récession terrible, jusqu'en 2060. Donc en fait, c'est une austérité renforcée pendant les décennies à venir que le pays s'est engagé à mettre en date. Mais il y a plus grave, c'est que les réformes dites structurelles qui ont été imposées par les mémorandums imposent des mécanismes de mise sous tutelle structurelle permanents. Deux, pour l'essentiel. Le premier, c'est que l'équivalent du trésor public, c'est-à-dire l'agence qui perçoit l'impôt en Grèce, est devenue une agence complètement indépendante et ne dépend plus d'aucune autorité gouvernementale ni de l'État grec, mais d'un comité dans lequel, en réalité, les institutions de la Troïka ont la haute main. Et doivent donner leur feu vert pour la nomination d'ailleurs de la personne qui est en tête de cette autorité indépendante de la perception de l'impôt. C'est comme si en France, on enlevait le trésor public du contrôle du ministère des Finances. Vous imaginez un peu ce qui se serait
passé. Et le deuxième point.
Aussi, mais même dans la France, dans ce cas. La deuxième chose, c'est que, et Jean-Arnaud Desreins a mentionné le cas des privatisations, en fait, c'est l'ensemble des biens publics de la Grèce qui sont placés sous séquestre par un organisme, là encore indépendant, là encore placé sous le contrôle de la Troïka, qui va vendre ce qui reste de richesse publique, c'est-à-dire les ports, les aéroports qui ont déjà été en grande partie privatisés, les lignes côtières, donc les plages, la côte du pays, enfin ce qui reste en quelque sorte de richesse publique, jusqu'à atteindre une certaine somme, il me semble de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards, je n'ai plus le chiffre en tête, il est de toute façon considéré comme totalement irréaliste à l'heure actuelle, et cette institution même qui mène les privatisations est calquée sur le modèle de la fameuse Treuhand allemande qui a piloté la privatisation des biens de l'ancienne RDA. Donc c'est une véritable mainmise, si vous voulez, permanente
rapidement, des
institutions de l'Union européenne et du FMI dans le cœur même de l'appareil d'État et dans le cœur même du fonctionnement économique du pays. Si vous ajoutez à cela que l'ensemble des banques grecques ont été vendues à des fonds spéculatifs étrangers pour un montant totalement ridicule, c'est l'un des plus grands scandales, ils ont été vendus pour 4 milliards alors que plus de 40 milliards ont été accordés à la recapitalisation des banques grecques. Vous avez une perception de ce qui se passe.
On l'a bien compris.
La mise sous tutelle du pays continue, c'est une véritable néocolonisation en fait qui a été mise en place grâce au système de la mémorandum et de la tutelle par la Troïka.
La parole à Nathalie Janson rapidement.
Juste pour préciser effectivement pour ce qui est de la perception de l'impôt et de la gestion des privatisations, ça c'était envisagé en fait dans le cadre de la lutte contre la corruption. En fait, voilà, c'est pour ça que ils avaient opté, alors contraint sans doute, mais c'était une façon d'essayer d'échapper à la corruption.
À vous entendre, à entendre cette description.
Non, je suis désolé, je ne peux pas.
Statis Kouvelakis.
Je ne peux pas laisser des choses pareilles. Mmh. Ce n'est pas vrai. C'est le troisième mémorandum signé par Alexis Tsipras qui prévoyait et non pas les deux premiers. Et ce n'est pas parce que soudainement en 2015 on a découvert la question de la corruption en Grèce. C'est parce que il fallait que Alexis Tsipras boive le calice jusqu'à la ligne, tout simplement.
À vous entendre, on se demande vraiment comment la Grèce va faire pour s'en sortir. On se demande même si elle peut vraiment s'en sortir, Jean-Arnaud Derrinz.
Oui, écoutez, je crois qu'il est assez difficile d'être optimiste. Alors, il y a des petits motifs de satisfaction. Bon, c'est vrai que la saison touristique, par exemple, est excellente, mais il me semble difficile d'imaginer que le pays puisse s'en sortir de manière saine et durable uniquement sur l'activité touristique. Les richesses qui ont été vendues, notamment les ports qu'évoquait Statis Kouvelakis, l'ont été. Le port du Pirée appartient à des groupes, à un consortium d'entreprises chinoises. Donc ça, c'est fait. Ça appartient déjà au passé. Dans ces conditions-là, je crois que la question de fond, qui se pose encore une fois, pas seulement pour la Grèce, mais au bout du compte pour, je dirais, toute une partie de ce que l'on doit bien appeler l'Europe du Sud, donc c'est vrai également pour le Portugal, c'est vrai également au moins pour la moitié de l'Italie, et puis c'est vrai bien évidemment pour les autres pays d'Europe du Sud-Est, qu'ils soient déjà membres de l'Union Européenne comme la Bulgarie, la Roumanie, et la Croatie, ou qu'ils soient seulement candidats, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun autre projet offert à ces sociétés que la perspective d'aller travailler en Europe dans la partie, disons, la plus riche de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a aucun autre projet, et il n'y a aucun projet réel de développement. Donc, parler de réforme, parler de lutte contre la corruption, parler d'amélioration de l'administration publique, c'est des discours qui, bien évidemment, touchent à des choses qui sont importantes, mais qui, dans le même temps, sont dramatiquement privées de sens, puisque on ne sait pas, on n'a pas de projet à proposer à ces sociétés-là, et les dirigeants politiques de ces pays n'en ont pas eux-mêmes aujourd'hui. On est effectivement, pour le coup, puisque nous sommes dans la même galère, dans un bateau commun qui est cette construction européenne, nous sommes tous aujourd'hui dans une situation où ce bateau tangue dangereusement parce que tout un flanc est en train de couler et que personne n'a l'idée de lancer ne serait-ce qu'une bouée pour essayer d'inverser le cours des choses.
Il nous reste...
Bien sûr, il est très difficile d'être optimiste.
Il nous reste 30 secondes, Statis Kouvelakis, très rapidement. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ?
Écoutez, je suis très pessimiste si les choses continuent comme elles le sont, mais pour moi,
le seul
motif d'espoir, c'est la capacité du peuple grec à réagir et à refuser le sort, justement, qu'on lui a réservé toutes ces dernières années. Le seul espoir, c'est une nouvelle expression de la volonté de ce peuple, actuellement humilié et démoralisé, mais qui peut se ressaisir.
Nathalie Janson.
Évidemment, mes propos iront à l'encontre de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'espoir, ce serait bien évidemment, voilà, d'avoir effectivement que ces réformes, en fait, produisent des fruits positifs et que voilà, qu'ils puissent bénéficier à certains et que voilà, ça puisse enclencher une dynamique positive.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Nathalie Janson, économiste, professeur de finance et d'économie à Neoma à Rouen et à Sciences Po à Paris. Statis Kouvelakis, professeur de philosophie politique au King's College à Londres, et Jean-Arnaud Derrinz, Prince, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Laïla Saïdi, Coppelia Menardi, Isolde Sicard, Imen Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Jean Friedrix. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast ou sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Demain, nous parlerons de la rentrée, celle des étudiants.